Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, 2 débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info cette semaine, ce sera avec Agnès Bonfillon, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Dans ce journal également, le témoignage précis et bouleversant de la seule rescapée du crash de la Yemenia Airlines. C'était il y a 13 ans. Et puis de très très gros dégâts la nuit dernière, dû à la grêle dans le Berry, mais aussi dans le Poitou.
Nos deux focus du jour, à peine installés, déjà très embarrassés, le gouvernement d'Elisabeth Borne, le ministre Damien Abad, accusé de viol par deux plaignantes, peut-il rester en poste? Et puis Kylian Mbappé, qui a décidé de rester au PSG, oui, mais avec de grosses contreparties et pas uniquement financières.
La question du jour sur RTL.fr justement, elle concerne de Kylian Mbappé, a-t-il eu raison de rester au Paris Saint-Germain selon vous? Vous dites oui à 33% et non à 38%, sachant que 29% des personnes interrogées ne se prononcent pas. Bon, on peut le dire comme ça. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Enfin des températures plus fraîches.
Et qu'est-ce que ça fait du bien. En effet, le passage des orages de cette nuit a mis fin à cette vague de chaleur. Donc ça se traduit surtout à l'ouest avec 23 degrés attendus cet après-midi à Toulouse ou encore 20 degrés à Nantes, alors que la veille, je le rappelle, il faisait pas moins de 30 degrés. Donc encore un peu de patience à l'est pour des températures plus tempérées, mais ça ne saurait tarder car les orages concernent déjà ces régions.
Merci beaucoup Claire, et à tout à l'heure, 13h, pour une météo complète.
RTL Midi.
Premier conseil des ministres donc ce matin pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, réuni autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Micro et caméra ont été acceptés pendant quelques minutes, le temps d'une déclaration du président de la République.
Je veux à nouveau vous remercier d'avoir accepté les responsabilités qui nous sont ici confiées. Pour moi, le fil rouge qui est le nôtre, c'est celui du progrès, c'est celui de servir notre devise, c'est-à-dire un projet de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de laïcité, un projet qui consiste à transmettre les valeurs de la France et de notre République, mais voilà, d'embrasser ces défis nouveaux.
Thomas Després, c'est vous qui avez suivi ce conseil des ministres à l'Élysée pour RTL. Les sourires étaient un peu crispés hein, sur la photo de rentrée avec l'affaire Damien Abad. On va y revenir dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, le ministre accusé de viol était là, évidemment, comme les autres nouveaux venus.
Oui, exactement. Damien Abad qui ne s'est pas arrêté devant les photographes pour poser sur le perron lors de son arrivée. Il a simplement glissé en sortant qu'il contestait formellement les accusations. En revanche, on a bien vu quelques sourires parmi les nouveaux entrants. Arrivée remarquée pour Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Costume gris, dossier bleu sous le bras et une cravate pour celui qui avait la réputation de ne pas aimer en mettre dans sa précédente vie professionnelle. Sourire également pour Catherine Colonna, la nouvelle chef de la diplomatie. Alors Agnès, on va être très honnête, hein, on n'a pas encore eu le temps d'identifier chacun des nouveaux visages du gouvernement d'Elisabeth Borne. Par chance, on devrait avoir quelques semaines pour le faire. En ce moment même, c'est Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole du gouvernement, et qui fait face à la presse pour son premier compte-rendu avant un nouveau déplacement cet après-midi pour Elisabeth Borne au Muséum d'Histoire Naturelle sur le thème de la protection de la biodiversité.
Merci Thomas Després en direct de l'Élysée. Vous le disiez justement, Olivia Grégoire qui en ce moment même fait pour sa première conférence de presse en tant que porte-parole du gouvernement qui est face à la presse, dit qu'un premier projet de loi sur le pouvoir d'achat devrait être adopté en Conseil des ministres avant les législatives. Avec vous Marie-Bénédicte Allaire, revenons sur le cas Damien Abad. Malgré la polémique qui prend de l'ampleur, on le voit, visiblement l'exécutif choisit de temporiser.
Oui, et pourtant, Olivia Grégoire, en ce moment même, est en train de répondre à sa première question sur le sujet. Mais à ce stade, l'exécutif se retranche derrière d'éventuels nouveaux éléments ou une décision de justice. Elisabeth Borne l'a précisé hier en réponse à une question. Elle a rappelé bien sûr qu'il ne pouvait y avoir aucune impunité sur des sujets tels que le harcèlement et les agressions sexuelles. Et Olivia Grégoire vient de dire la ligne du président et de la première ministre est très claire, c'est tolérance zéro. Mais l'affaire, il faut le dire, a de quoi tétaniser l'exécutif parce que Damien Abad nie les faits, ce qui est déjà une chose, mais il fait valoir par communiqué que les actes dont on l'accuse lui sont impossible en raison de son handicap. Il y a donc d'un côté la parole des femmes et la volonté affichée de combattre les violences sexuelles, de l'autre la présomption d'innocence et le handicap du ministre. Alors la majorité vient déjà d'affronter une polémique après l'investiture d'un candidat condamné pour violence envers une compagne qui a finalement retiré sa candidature aux législatives. Damien Abad lui était bien à l'Élysée ce matin et dans son entourage, on souligne que le nouveau ministre est persuadé d'avoir le soutien du président et de la première ministre.
Et ces accusations existaient et l'affaire avait été classée sans suite.
Absolument.
En 2017.
Oui, la première affaire.
Et les faits remonteraient à 2010-2011.
Il y a deux affaires en fait.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. Avant le Conseil des ministres, la Première ministre Elisabeth Borne a remis les clés du ministère du Travail à son successeur.
À Olivier Dussopt, qui hérite d'un ministère qui a changé de nom. Ministère du Travail, oui, mais aussi du plein emploi. La chef du gouvernement insiste bien.
Monsieur le ministre, le président de la République a fixé un cap, le plein emploi. Il n'a jamais été aussi proche, aussi accessible, alors je compte sur vous. Le plein emploi sera le symbole de cette renaissance de notre pays que nous devons aux Français. Il est la meilleure solution pour leur pouvoir d'achat et pour la dignité de chacun. Il est la meilleure chance pour nos entreprises qui cherchent aujourd'hui à recruter. Le plein emploi sera votre boussole.
Des propos recueillis par Anaïs Bouissou. Et sachez que demain matin, le nouveau ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt, sera l'invité de Benjamin Sportouche à 7h40 sur RTL.
Imaginez des grêlons de la taille d'une balle de tennis, c'est Roland-Garros, mais c'est gros. Et lourd.
Et ça fait surtout de très très gros dégâts. Hier soir, plusieurs départements ont été touchés. Les Deux-Sèvres, la Vienne ou encore l'Indre. Certains experts n'avaient jamais vu ça. Florentin Cailloux est chasseur d'orage à Châteauroux.
Depuis que je suis chasseur d'orage, j'avais encore jamais vu des grêlons d'une telle taille. Ça fait vraiment depuis plusieurs dizaines d'années qu'on n'a jamais vu un tel phénomène sur l'agglomération de Châteauroux, et du moins aussi étendu. La taille des grêlons, c'était entre 5 et 10 cm, voire localement plus de 10 cm. Donc c'est pour ça qu'on a observé autant de dégâts. C'est surtout donc des pare-brises brisées, des fenêtres brisées aussi également, des tuiles où il y a plein de trous. C'était quand même assez hallucinant. Il y a vraiment de nombreuses maisons qui sont impactées, même des arbres qui ont arraché. Donc les cultures sont également touchées. C'est vraiment un orage qui était d'une sévérité assez particulière et vraiment rarissime sur la région.
La grêle fait partie des phénomènes météorologiques étudiés par Alix Roumaniac, directeur de Predict Service. La chaleur de ces derniers jours a eu un impact sur la taille des grêlons.
La France a connu depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, une situation de chaleur assez exceptionnelle. Et les grêlons se forment dans de la convection. Plus le différentiel de température entre le sol et l'altitude est important, la convection est très rapide. En plus de ça, quand il fait chaud, la teneur en humidité de l'air est plus importante. Et donc, il y a capacité à plus transformer cette humidité en grêlons.
Des propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL.
Un moment très fort ce matin au procès de la Yemenia Airways à Paris.
La seule rescapée du crash qui en 2009 avait fait 152 morts au large des Comores a commencé à témoigner à la barre, Alice Moreno. Baya avait 12 ans au moment du drame. Ses souvenirs sont extrêmement précis.
Oui, elle se souvient parfaitement des minutes qui ont précédé le drame. On nous a annoncé qu'on allait atterrir dans pas très longtemps. Je commence à sentir des turbulences, personne ne réagit. Je me dis que ça doit être normal. Baya a aujourd'hui 25 ans et trouve la force de sourire au tribunal pour raconter le pire. Elle décrit la seconde où tout bascule. J'ai senti une décharge électrique. L'avion vient de se fracasser en mer, trou noir. Puis je me réveille dans l'eau. La petite Baya n'a alors que 12 ans, s'agrippe à un débris de l'appareil. La mer est très agitée, il y a énormément de vagues. S'ajoute à ça le goût du kérosène. Nuit d'horreur, elle entend des voix qui appellent au secours et se taisent lentement. Le soleil se lève sur la côte comorienne. Des secouristes trouvent Baya accrochée depuis des heures à son débris. Elle est la seule qui a survécu. Ma mère n'aurait pas supporté que je baisse les bras, reprend la jeune femme à la barre. Elle voyageait avec elle ce jour-là. Baya pleure. Ça a été compliqué de gérer le deuil. Ma maman n'est plus là. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, assure-t-elle. Mais j'aurais aimé que Yemenia nous écoute, avoir des excuses, alors qu'aucun représentant de l'entreprise n'est dans la salle.
Compte rendu d'audience d'Alice Moreno pour RTL. Le meurtre d'un vigile travaillant pour l'ambassade du Qatar ce matin à Paris. La victime aurait été prise à partie par un homme interpellé juste après les faits. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire.
Condamné à la prison à vie, le jugement vient de tomber pour le soldat russe jugé en Ukraine pour crime de guerre.
Il a été reconnu coupable d'avoir tué un civil alors qu'il ne présentait aucun danger. C'est le premier militaire à être condamné depuis le début de la guerre. Sophie Jousselin.
Oui, c'était d'ailleurs tout au début de la guerre. Vadim Chichimarine avait abattu un civil à vélo alors qu'avec son unité, il fuyait un village ukrainien à bord d'une voiture volée. Le soldat avait alors exécuté l'ordre d'un de ses supérieurs qui lui demandait de tirer sur cet habitant. Il craignait qu'il les dénonce pour le vol du véhicule. Le jeune soldat de 21 ans avait reconnu les faits lors du procès. Il a dit regretter son geste et a demandé pardon à la famille de la victime. Vadim Chichimarine n'était pas seul dans le véhicule le 28 février. Quatre autres soldats étaient avec lui. On ne sait pas s'ils ont été arrêtés et s'ils seront jugés. Actuellement, plus de 1000 dossiers de possibles crimes de guerre sont entre les mains des enquêteurs ukrainiens. Plusieurs centaines de suspects auraient été identifiés, ce qui devrait donner lieu à de nouveaux procès. Et à l'instant, l'avocat du jeune soldat vient d'annoncer que Vadim Chichimarine allait faire appel.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Direction Roland-Garros.
RTL. Roland-Garros 2022.
10 Français attendus sur les cours aujourd'hui. Isabelle Longer et un programme de luxe sur le central.
Ah oui, avec la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, opposée à l'Ukrainienne Tsurenko. Et pour le moment, ça se passe très bien pour Iga Swiatek. Hein. Elle vient de remporter la première manche 6-2. En revanche, c'est déjà terminé pour Naomi Osaka, battue par l'Américaine Anisimova. 7-5, 6-4 pour Anisimova. Et sur le court, Simone Mathieu. C'est compliqué et c'est même terminé pour Océane Dodin, battue 6-4, 6-2 à l'instant même par l'Allemande Petkovic. On attend sur le central encore Diane Parry contre la gagnante de l'an dernier, la Tchèque Krejcikova. On aura ensuite Raphaël Nadal, 13 fois vainqueur ici. Et la session de nuit sera ouverte aujourd'hui. Vous savez qu'il y aura désormais un match à 21h sur le central, chaque soir jusqu'au quart de finale de ce tournoi. Et bien c'est Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui sera sur le court ce soir face au Japonais Nishioka.
C'est-à-dire qu'avant vous arriviez à 8h, vous repartiez à 29h, maintenant vous arrivez à
8h
du matin.
Vous êtes gentil, Pascal Brault, vous l'avez déjà fait Roland-Garros.
Oui, non,
je vous rappelle Raphaël Nadal, notre record il y a 2 ans.
Vous dormez là-bas, c'est ce que je veux vous dire.
On dormait déjà là-bas, hein. Il y a 2 ans on a fait Raphaël Nadal, on est parti à 3h du matin avec Jean-Michel Rascol.
C'était le centre. Quelle est notre meilleure chance française cette année, si tant est qu'il y en ait une?
Ça va être compliqué.
Bon, merci beaucoup.
Henri Lecomte, notre consultant.
Henri, vous le saluez. Henri Lecomte, magnifique.
À tout à l'heure, 13h30, Isabelle
Manger. 12h42. On est mal. On est mal, comme le gouvernement, peut-être, avec Elisabeth Borne. Le ministre Damien Abad est accusé de viol par deux femmes. Peut-il rester en poste? On va en parler dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon et Pascal Praud.
Le gouvernement continuera sans relâche à encourager la libération de la parole des femmes. Comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Cette affaire a été classée sans suite à 2 reprises. S'il existait d'autres victimes, il faudrait, sans réserve, qu'elles puissent se manifester devant la justice. Voilà la position du gouvernement.
Voilà ce que vient de déclarer Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement concernant le cas Damien Abad, évidemment, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, accusé de viol. L'affaire prend de l'ampleur, bien évidemment, et pour en parler avec nous en studio, Mathilde Viau, bonjour.
Bonjour.
Co-fondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Concernant effectivement la porte-parole du gouvernement, elle dit voilà, pour l'instant effectivement, pas de suite, affaire classée sans suite pour l'instant, donc nous on se fie finalement à ce que dit la justice pour l'instant, et la justice dit ça, on se range derrière la justice, et effectivement Damien Abad peut rester en poste.
Oui, c'est une stratégie du en même temps qu'on avait vu déjà se déployer à de nombreuses reprises, qu'on a vu se déployer avec Monsieur Darmanin, avec Monsieur Hulot, où on a vu des mécanismes de défense systématiques de la part du gouvernement pour appuyer en fait le fait que ces ministres restent en place. Cette stratégie du en même temps, elle est difficile à défendre pour deux de raisons. La première, c'est que quand même, elle vient de dire qu'il faut bien sûr augmenter la libération de la parole des femmes, etc. Moi, je pense que c'est la libération de l'écoute qu'il va falloir augmenter maintenant, c'est-à-dire de la prise en considération de la parole des femmes. Et là, justement, la réception de la parole des femmes n'est pas à la hauteur et envoie un mauvais signal à la société tout entière. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quand même qu'on est face à un ministre qui doit donc nécessairement remplir une mission d'intérêt général, qui doit, par ses fonctions, pouvoir assurer finalement une mission de garantie de l'État, en fait, d'une petite partie de l'État qui le concerne pour son ministère, son portefeuille, et que là, vraisemblablement, ses missions, il ne pourra pas les remplir de façon correcte. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas exercer son rôle de ministre sereinement. Je ne vois pas à quel moment on décide de faire primer son intérêt particulier à rester lui-même ministre, etc., au-dessus de l'intérêt général. C'est hallucinant. Ça traduit quand même une vision de l'État qui, je trouve, est problématique. C'est-à-dire qu'on personnalise le poste politique.
Respecter la présomption d'innocence.
Et la présomption d'innocence ne dit pas ça. La présomption d'innocence, c'est le fait de ne pas jeter quelqu'un en prison sans avoir été jugé par un tribunal. Il n'est pas question de jeter...
de travailler, et c'est en fait le problème que posent aujourd'hui ces affaires récurrentes, ça va bien au-delà de la politique. Dans une entreprise, quelqu'un vient dans le bureau d'un patron, une femme, et dire « un tel m'a agressé sexuellement ».
Dans
que
ce
doit
cas,
faire aujourd'hui le patron ?
Les services
Est-ce qu'il
RH,
doit le mettre
C'est prévu par le Code du travail. C'est-à-dire que les services RH ont l'obligation de se saisir de ce cas-là, de mettre à pied la personne, avec ou sans solde, le temps qu'une enquête interne soit diligentée. C'est-à-dire que c'est une procédure extrajudiciaire qui existe depuis très longtemps. Et j'ai jamais entendu dire « Oh là là, les services RH créent des cabales contre les hommes dans les entreprises, etc. » Donc, il est nécessaire que ces pratiques-là qui existent au sein des entreprises soient appliquées aussi au monde politique. On n'a pas de droit à conserver, à être ministre, surtout si on ne peut pas remplir sa tâche correctement.
Bon, évidemment, c'est une affaire politique qui va embarrasser le gouvernement, Benjamin Sportouche.
Ah bah oui, pour l'instant, Damien Abad est soutenu par le gouvernement. La porte-parole vient de le rappeler, il était présent au Conseil des ministres, mais clairement, c'est une source d'emmerdement. Disons les choses clairement pour le gouvernement, parce que il y a beaucoup de
mais
de
il
dossiers.
Le savait pas avant, pardonnez-moi de poser la question si naïvement. C'est absolument il y a un problème presque de compétence politique.
Est-ce qu'il y a eu un problème de relais auprès de la Première ministre, dont on en dit, et c'est Olivier Grégoire qui vient de le dire, il s'est entretenu, Damien Abad, avec la Première ministre dimanche soir. Donc ça veut dire qu'elle lui a parler, mais ça c'est après qu'elle nous ait dit.
Mais elle l'a découvert.
Dit. Ce que dit Mediapart dans son article, c'est que Mediapart a contacté le Matignon et peut-être
mais
le
après
cabinet.
La
non, alors la semaine dernière. Donc espérons qu'il n'y ait pas eu de
rétention d'informations.
Voilà, ou en tous les cas de défaut d'information de la Première ministre, parce que sinon c'est vrai que ça serait gênant. Mais clairement, il se serait bien passé de cette affaire parce que. On ne parle que de ça. Ça vient parasiter le message essentiel qui était celui aujourd'hui du premier projet de loi qui doit être celui du pouvoir d'achat, d'un premier Conseil des ministres tout de même, et enfin la cause de l'égalité homme-femme qui est, pour ce quinquennat encore, celle qu'Emmanuel Macron veut mettre en avant. Donc vous voyez, ça vient parasiter beaucoup de choses, et en même temps Emmanuel Macron l'a toujours dit, il les plutôt sur une démarche à dire on laisse la présomption d'innocence jouer. C'est aussi pour cela, par exemple, qu'Éric Dupond-Moretti est maintenu au gouvernement dans une toute autre affaire, puisqu'il est mis en examen, lui, pour conflit d'intérêts. Mais il est toujours au gouvernement. Voilà, donc il a toujours un peu théorisé cela aussi, Emmanuel Macron, de dire, voilà, tant qu'il n'y a pas de faisceau concordant qui aboutisse à une
accusation... Ce qui n'est pas le cas pour Gérald Darmanin, pardonnez-moi de vous couper, puisque vous parliez tout à l'heure de Gérald Darmanin, mais là, la justice a tranché. Donc lorsque Mme Viau vous parlait de Gérald Darmanin, là, il n'est poursuivi.
Je faisais mention de la défense automatique. Non, bien sûr, mais j'essaie de vous planter le décor. C'est-à-dire de vous démontrer dans quel cadre ça s'inscrit, quand nous, on essaye d'expliquer qu'il y a un problème en politique avec les violences sexistes et sexuelles. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Gérald Darmanin a été défendu par Emmanuel Macron publiquement, qui a jugé devant tout le monde avoir une discussion avec lui entre hommes, et qu'il s'agissait de quelqu'un d'exigeant, et que par conséquent, il restait au gouvernement. À ce moment-là, Emmanuel Macron sort...
raison à Gérald Darmanin.
Non, il n'a pas donné raison sur... les plaintes ont été classées, oui.
Là, ça s'appelle donner raison, c'est-à-dire qu'il a donné fait écho, mais c'est important de le dire.
Si vous voulez, on peut rentrer dans le détail. Il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des femmes qui lui avaient demandé de lui rendre des services. dans les deux cas. On a un problème de qualification parce que c'est tombé dans un vide juridique, cette situation. Néanmoins, je ne sais pas si vous voulez, enfin si vous pouvez revoir les textos qui avaient été échangés, qui avaient été publiés par Mediapart à l'époque, ils sont terrifiants. Donc,
oui. J'entends ce que vous dites, mais la justice, moi je ne connais pas à fond le dossier, mais la justice.
Ce que je disais si tout à l'heure, c'est qu'il y a un mécanisme de défense qui systématique et hallucinant. Quand M. Hulot est mis en cause aussi, Mme Schiappa s'assoit à côté de lui aux questions au gouvernement pour, faire la démonstration qu'elle le soutient. Et il y a comme ça un repli sur soi identitaire dans le monde politique qui est un soutien qui ne doit pas perdurer.
Est-ce que vous avez tenté de signaler tout cela directement à l'exécutif ou pas, la semaine dernière?
On a signalé, on a envoyé des mails.
Non, mais je parle. Alors là, vous me parlez de La République En Marche et des partis. Est-ce que vous avez adressé des signalements
au procureur de la République, tout à fait.
Donc vous n'en avez pas fait ni à Matignon ni à l'Élysée.
Non, c'est juste, voilà. Pas du tout. Sachant qu'il n'y avait pas de gouvernement à l'époque. On n'avait pas d'interlocuteur dans la maison pour nous répondre.
Elisabeth Borne était dénommée depuis lundi dernier.
On a envoyé les mails lundi, effectivement. Elle n'était pas encore nommée quand on a envoyé les mails.
C'est un sujet passionnant et je remercie beaucoup Mme Viau, qui est cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Si vous souhaitez, d'ailleurs, vous pouvez peut-être rester avec nous et échanger avec les auditeurs. On a entre 13h et 13h20. Enfin, je trouve que c'est un sujet de société qui nous intéresse tous et dans lequel nous devons trouver les bonnes réponses. Il est 12h53, Benjamin Sportouche sera également là tout à l'heure dans le premier quart d'heure pour parler de l'affaire Abad. Exactement. Restons quelques minutes ensemble. Le deuxième sujet dans une seconde, Mbappé, ça n'a rien à voir, qui reste au PSG, c'est plus léger. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison, je suis très content de continuer l'aventure.
Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, depuis que l'on sait qu'il reste au PSG, les mesures s'enchaînent. Départ notamment du directeur sportif Leonardo, l'entraîneur Pochettino pourrait suivre. Tout déconstruire pour mieux reconstruire, est-ce que cela faisait partie du deal passé avec Mbappé? Bonjour Nicolas Georgeau.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos spécialistes du PSG pour l'attaquant. Finalement, c'est « je reste, mais attention, désormais on fait autrement ».
Oui, c'est bien résumé. Il fallait une réorganisation en profondeur, totale. Ça, c'est certain. Finalement, le constat, il est assez simple. Ça ne fonctionne pas actuellement. Et il suffit de regarder cette saison emblématique où vous avez Mbappé, Messi, Neymar, ce qui est quelque chose de complètement incroyable. Un entraîneur qui, certes, n'a pas le plus beau palmarès du foot européen, mais qui a eu des résultats précédemment. Et finalement, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Et c'est la pire saison sous l'ère qatari. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est ce quelque chose auquel s'attaque le Paris Saint-Germain, en lien avec Kylian Mbappé. Est-ce que ça marchera dans le futur? Ça encore, on n'est pas Madame Irma, ce sera... on peut pas l'affirmer. Mais en tout cas, la question est de savoir, de mettre, de réunir toutes les conditions pour que ça marche. Les dernières semaines, les derniers mois, ça a aussi été un élément de pointer tous ces dysfonctionnements.
Comme les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, ça veut dire qu'il faut se séparer de Neymar et Messi, qui étaient là cette année, parce que ça n'a pas marché avec eux.
Alors, vous avez en partie raison sur un joueur, et ce sera d'ailleurs un feuilleton qui va sans doute peut-être s'étirer cet été, c'est Neymar.
Mais
vous avez raison, parce qu'il cristallise et symbolise des dysfonctionnements.
Sauf qu'il est invendable, il est trop cher, qui va le prendre, Neymar?
C'est une bonne question, mais c'est aussi pour ça que le directeur sportif qui doit être en remplacement de Leonardo, Luis Campos, peu connu du grand public, mais connu dans le monde du foot, doit arriver pour s'occuper notamment de
entraîneur, est-ce que Zidane, c'est possible?
Ça n'en prend pas le chemin, pour plusieurs raisons. Bon,
parce que Zidane ou Galtier, j'ai rien contre Galtier, mais ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même prestige.
Il faut expliquer
même si Christophe Galtier est un excellent entraîneur.
Parce que Galtier a travaillé avec Luis Campos, notamment à Lille, et que ça a fonctionné. Voilà pourquoi le nom de Galtier sort du chapeau.
Et Zidane, ça ne prend pas le chemin parce qu'il attend la succession de Didier Deschamps?
Parce qu'il est courtisé depuis un moment, qu'il n'a pas voulu plonger dans le bain immédiatement. Deuxièmement, quand il était au Real Madrid, il avait une surface et il avait les mains libres. Avec Luis Campos, ça ne sera pas le cas. Donc ça pose il y a des interrogations. Et troisièmement, la clé, c'est les Bleus. Vous avez raison.
Dernière chose, l'argent. Est-ce que vous êtes au courant de la prime à la signature? J'entends tout. J'ai entendu 300 millions d'euros.
Non, ça c'est faux, mais on va tourner autour d'une prime aux alentours de 100 millions d'euros, entre 100 et 130 millions d'euros, avec
prime
à la signature.
Plus le salaire derrière.
Et avec deux contrats, mais on en attend vérification, avec deux contrats à la fois au Real et au Paris Saint-Germain, très semblables, au
donc,
final.
Moi, j'ai une petite question quand même, Nicolas. N'y a-t-il pas un risque de lui faire endosser à Kylian Mbappé un costume un peu trop grand pour lui? avec mettre un peu trop de pression.
Oui, mais vous avez. Non, mais c'est tout à fait. Ça, ce sera une équation, effectivement, sur les prochains mois et les deux prochaines saisons. Les trois prochaines, même, mais surtout les deux prochaines. C'est-à-dire, est-ce que finalement, il sera capable d'assumer ça? Pour l'instant, on a vu qu'il était capable d'assumer beaucoup de choses. Mais effectivement, ça rajoute encore une vague de pression sur la réussite du Paris Saint-Germain, c'est certain.
Disons-le, c'est une bonne chose pour le foot français. C'est une bonne chose pour RTL de commenter des matchs du PSG avec Mbappé. C'est une bonne chose pour tous les médias français, bien évidemment. Donc réjouissons-nous.
Mais pleinement, pleinement, mon cher Pascal, vous avez entièrement raison.
Mais non, mais c'est vrai quand même. Bon, voilà, il reste, c'est le meilleur joueur du monde, il reste dans le championnat de France.
Bah oui, c'est ce que Vincent Labrune, le patron de la Ligue, se félicite depuis ce week-end.
Il est 12h59, la pause, à tout de suite. RTL Midi.